France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Alors, on a comparé nos soirées dans le bureau du 18-20. Philippe, le chef, et moi, qui avons plus ou moins le même âge, le même réflexe quand on n'a pas mieux à faire, rentrer chez soi, allumer la télé, voir ce qui se passe d'une chaîne à l'autre. Thomas, qui réalise cette émission, ou Pierre, un des programmateurs bien plus jeunes, leur réflexe, quand ils n'ont pas mieux à faire, se mettre sur YouTube. À la fin, on fait la même chose, une soirée vaguement passive, et peut-être même que d'ailleurs on finira par se retrouver ensemble sur une autre plateforme. Mais nos réflexes différents parlent d'une transformation de la société qui a l'âge de YouTube, 20 ans. Est-ce que la plateforme est devenue plus puissante que la télé? C'est bien possible. Est-ce qu'elle la remplace? C'est une autre histoire. En tout cas, pour les 15-49 ans, le site et l'application sont passés devant la télé. 60% des Français utilisent quotidiennement YouTube à un moment ou à un autre. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que de plus en plus de gens regardent YouTube, mais sur le poste de télé, donc plus seulement sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Les codes des uns s'en mêlent et se démêlent. YouTube ressemble à la télé dans certaines émissions. Est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs une émission également? La télé a évidemment piqué les codes d'Internet et depuis un bout de temps. On est sur YouTube aux antipodes des vidéos tournées dans sa chambre au début avec un mauvais matériel. YouTube aujourd'hui produit des émissions qui sont léchées. Et la télé, qui a compris que le problème est moins le contenu, peut-être que la manière d'y accéder, avance sur plein de jambes à la fois. Il y a donc la télé de papa que tout le monde regarde sur le canapé, il y a la chaîne YouTube, il y a aussi les plateformes qui permettent de voir, de revoir, de redécouvrir. Bref, est-ce que la phrase qu'on ne prononcera finalement plus jamais dans un avenir proche, c'est « qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ?» C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Alexis, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir Alexis.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi j'ai 25 ans et en fait votre sujet m'a intéressé parce que comme vous le racontiez tout à l'heure, moi mon réflexe quand j'arrive à l'appartement c'est finalement d'allumer la télé mais de pas lancer les chaînes télé mais lancer YouTube.
Et pardon, finissez Alexis.
Parce que en fait, voilà, je suis habitué au format. Ça fait à peu près 12-13 ans que je regarde quotidiennement YouTube. J'ai mes habitudes finalement, et j'y trouve mon compte.
Mais est-ce que ça veut dire que au fond, vous utilisez YouTube comme un flux, ou est-ce que la télé dite classique, en fait, est une espèce de terrain incognita pour vous, Alexis?
Alors non, parce que du coup, avec mes parents, j'ai eu le traditionnel, le soir, le JT de 20h, donc la télé je connais, et puis même les émissions de divertissement, etc. Mais YouTube a cette palette diversifiée de programmes, et puis le fait de pouvoir regarder le programme qu'on veut à l'heure qu'on veut, le regarder autant de fois qu'on veut, et finalement s'attacher peut-être un peu plus aussi aux personnes qui produisent des vidéos qu'à la télé, parce qu'il y a un sentiment de proximité qui est un peu plus important.
Eh ben merci beaucoup Alexis, merci pour l'entrée en matière, ça va pouvoir démarrer notre émission, ce témoignage, pour discuter ensemble autour de la table. Il y a Jean Massier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes streamer politique, vous êtes producteur d'une émission qui s'appelle Backseat, vous êtes sur Twitch en direct, vous êtes en replay sur YouTube, si je ne m'abuse.
Bon.
Bruno Patino est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le dinosaure avec moi de cette émission, Bruno Patino, mais moi aussi. Hein. Vous êtes le président d'Arte, mais on parlera aussi justement de la plateforme et de la raison pour laquelle vous aussi, vous allez évidemment et depuis longtemps du côté de YouTube. Et puis il y a Adam Bros qui est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes youtubeur, Adam, vous avez une chaîne qui porte votre nom, vous êtes jeune, vous avez 23 ans, ça fait plus de 12 ans que vous faites des vidéos, vous parlez de pop culture et d'actu, vous êtes en pause, c'est pour ça que vous êtes loin de nous, vous êtes aux États-Unis en ce moment, depuis la validation de votre master, donc toutes nos félicitations, vous avez le droit de souffler, vous nous direz comment vous reviendrez et si vous allez revenir. Mais je voudrais d'abord vous faire réagir les uns les autres, peut-être vous, Bruno Patino d'abord, à ce que nous dit notre ami Alexis. Il a 25 ans, il a totalement l'âge d'être d'abord sur YouTube et en même temps il l'est presque à l'ancienne sur la télévision, c'est-à-dire pas seulement sur son ordi, et ça dit à quel point les univers aujourd'hui se sont totalement mélangés les uns les autres.
Oui, je pense que c'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que tout ça s'imbrique en réalité et que quand on parle de la télévision, quand on dit ben, la télévision, est-ce qu'elle est morte, on parle de trois choses qui sont complètement différentes. Si on parle des programmes d'images vidéo animées, il n'y en a jamais eu autant. Mmh. Si on parle du téléviseur, eh bien, il fait une énorme résistance, mais il n'a plus le monopole de l'image animée, puisqu'il y a tout le reste. Et puis, évidemment, si on parle de la télévision linéaire, c'est-à-dire la télévision en direct programme, là, c'est un usage qui... effectivement vieillit et se réduit. Et donc je pense que qu'aujourd'hui, si vous voulez, la réalité, c'est que YouTube occupe maintenant un espace très important. Je vais me permettre de corriger ce que vous avez dit tout à l'heure, en tout cas d'y apporter une nuance. Ça n'est pas YouTube qui produit, c'est YouTube qui accueille des gens qui produisent.
Je disais, les émissions sont mieux produites, alors pour le coup, c'est...
Et je pense que c'est très important à comprendre.
Ça veut dire que c'est plus léché, c'est ça que ça veut dire.
Parce que, si vous voulez, c'est important à comprendre, parce que sur YouTube, entre guillemets, il y a de tout. Et vous citiez Arte, alors on est peut-être les dinosaures, mais on est sur YouTube depuis 10 ans.
Absolument.
On a une vingtaine de chaînes YouTube, on a aujourd'hui environ 28 millions d'abonnés sur les chaînes sociales, et d'ailleurs Jean Massier ici est sur un projet avec nous qui s'appelle Euroguessr. Donc je pense que c'est très important de voir que cette plateforme, effectivement, elle change la donne parce qu'elle est devenue l'interface, pardon d'en parler comme ça, l'interface naturelle de recours à l'image animée pour toute une génération. Et si on veut toucher cette génération, il faut passer par cette
plateforme. Justement, toute une génération, je vais vous donner la parole dans une seconde, Jean Massier, mais dans la formulation d'Alexis, moi je trouve ça intéressant, quand je lui demande, mais alors est-ce que la télé vous connaissez, il dit oui, avec mes parents, il y avait la messe du 20h, il y avait tout ça, donc est-ce que ça dit... tout simplement, en fait, une rupture générationnelle ? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ?
Pour moi, c'est plus compliqué que ça. Parce que si on parle des formes télévisuelles, il y a des formes qui vieillissent, et puis il y a des formes qui vivent très bien sur YouTube. Et si je reprends l'exemple d'Arte, on a certes des formes tout à fait numériques. Je vais prendre deux, pardon de parler comme ça, cartons qu'on a fait récemment, qui sont Samuel ou DJ Mehdi, qui ont vécu sur la plateforme et sur YouTube, avec des scores phénoménaux. Mais vous avez aussi les documentaires qui passent dans les thémas du mardi, qui arrivent à rencontrer un public extrêmement important. Donc au niveau des formes, il y a tout sur YouTube, et des formes d'extrêmement grande qualité, produites, Jean Massier en produit ici, beaucoup, et moi je trouve formidable que YouTube permette comme ça un foisonnement des nouvelles formes. Si on parle maintenant du rapport qu'on peut avoir, la télé, entre guillemets, linéaire, c'est effectivement, votre auditeur l'a dit, un endroit où on se dit, tiens, on n'a pas le choix du moment Exactement. Et du contenu, mais en même temps, ça nous met ensemble en même temps. Donc il y a cette synchronicité qui est permise, au prix de la liberté.
Et on va y venir là-dessus, effectivement. Est-ce que ce moment-là, en fait, c'est aussi les moments de télévision qui, peut-être, aujourd'hui, sont un peu différents. Jean Massier, ce que je retiens de notre auditeur, c'est, au fond, c'est pas tant le contenu, c'est le moment où je peux aller chercher mon contenu qui compte aujourd'hui.
Ce qu'a dit Alexis, l'auditeur, est très important. Il a dit ce que j'apprécie sur YouTube, c'est aussi la proximité que j'ai avec les créateurs. Et ça dit quelque chose d'important. YouTube n'est pas seulement une technologie, n'est pas seulement une plateforme, YouTube est aussi une culture. YouTube est aussi une manière de faire des vidéos, un rapport au public. YouTube est ancré dans la culture web, dans cette culture de l'horizontalité, de l'interaction, avec ses commentaires. On fait communauté avec ses auditeurs, avec ses followers sur YouTube. Là où la télévision plus traditionnelle et linéaire a un rapport beaucoup plus vertical et historique. Je trouve, oui, même si les choses changent, et c'est pour ça que moi
Les animateurs sont très très populaires, et même les animateurs de la télé
La popularité
ne fait
pas forcément le rapport charnel avec son audience. J'ai toujours dit, par exemple, que un Cyril Hanouna est peut-être l'un de ceux qui a le mieux compris Internet à la télévision, parce que lui, il a par exemple un petit surnom que lui donne sa communauté, c'est Baba. Il a un petit surnom pour ses followers, c'est mes petites chéries. C'est bête ce que je suis en train de dire, mais ça c'est très YouTube.
Mais est-ce que ça veut dire
c'est une identité, c'est une grammaire.
Est-ce que ça veut dire que vous, Jean Massier, parce que là aussi, Backseat, c'est très bien fait, c'est très léché, les codes effectivement ressemblent à ceux de la télé dite classique. Est-ce que vous pensez que vous auriez, même vous, dans votre manière de parler, dans votre manière d'arriver, une manière très différente de le faire, si vous étiez sur la télé classique, par
exemple ? Oui, absolument, certainement. Le projet Backseat et les projets qui sont produits, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, sont beaucoup plus incarnés dans un rapport justement avec le public. D'ailleurs, c'est le public qui finance l'émission, donc ça crée une proximité dans l'écriture de l'émission, une forme de complicité aussi, très très loin de la distance, parfois un peu cérémonielle, qui peut exister dans les médias plus traditionnels. Donc il y a à mon avis, une grammaire de l'image, une grammaire de l'écriture de l'émission, de son rythme, de son ton, du rapport au public qui est propre à cette culture web, incarnée par YouTube, par d'autres plateformes comme Twitch. Mais encore une fois, je refuse d'opposer systématiquement YouTube et la télévision, comme si la télévision se laissait mourir. Non, la télévision évolue, la télévision change, les choses bougent, et les productions télévisuelles sont de plus en plus YouTube-esques, si je puis dire.
Et Adam Bros, de plus en plus youtubesque, ça veut dire que chacun a piqué dans les codes de l'autre, en fait, et peut-être que ce qu'on a pris au code internet, ce qu'on a pris à YouTube, c'est une manière de parler, peut-être plus de décontraction, mais la question que je me pose du coup, c'est est-ce que si YouTube se professionnalise, si les grandes chaînes y vont, sont obligées d'y aller, si les émissions sont de plus en plus léchées, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour ce qu'était l'esprit au début? Et l'esprit du début, alors il ne s'agit pas de refaire des vidéos dans sa chambre, mais enfin c'était quelque chose de finalement assez amateur où chacun avait sa chance. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui d'avoir chacun sa chance quand on arrive sur YouTube ?
Non. Bah ça, c'est toujours difficile à dire. La question, c'était même est-ce que chacun avait vraiment sa chance il y a 10 ans au moment de se lancer ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux choses à voir, deux phénomènes. Il y a un premier phénomène qui est effectivement une forme de convergence médiatique. Il y a un terme utilisé par les chercheurs qui s'appelle la remédiation, qui dit qu'un média ne meurt jamais, il se remédie constamment, c'est-à-dire qu'il va puiser dans les codes des autres médias, et donc YouTube a puisé dans les codes de la télévision, et la télévision le fait inversement. Mais là où la particularité de YouTube peut rester, c'est, comme l'a très bien dit Jean Massier, sur la relation que va avoir l'audience par rapport à une figure. On peut penser à, par exemple, Lena Situation ou Squeezie, qui sont aujourd'hui de véritables célébrités, de véritables stars, mais qui arrivent, malgré tout, à maintenir un semblant, en tout cas une illusion de proximité, bien plus forte que les présentateurs télé, qu'on appelle relations parasociales. Et même dans le cas des youtubeurs, il y a des chercheurs qui ont fait des études pour parler de relations transparasociales, tellement cette relation est forte et tellement cette impression de proximité est forte.
J'ai entendu illusion, en tout cas, de proximité dans ce que vous nous dites. Adam, je voudrais qu'on écoute Marie qui nous attend au standard. Bonsoir Marie. Marie-Odile, pardon.
Bonjour Fabienne.
Bonjour, vous écoute.
J'aime bien vos émissions, elles m'intéressent toujours beaucoup. Et je voulais apporter un témoignage. On n'a pas de télévision depuis très longtemps. Et il y a quelques années, on a découvert YouTube parce qu'on cherchait des retransmissions de concerts. Et après un essai, on s'est abonné parce qu'autrement, c'est sans arrêt coupé par de la pub. On ne peut pas profiter de ce qu'on regarde. Et ce qui nous a beaucoup frappé, et ce pourquoi on y est resté, c'est que, je pense, grâce aux algorithmes, ils nous proposent des choses qu'on n'aurait jamais découvert autrement.
Allez-y.
Inversement, une chose qui nous désoriente un peu et qu'on n'apprécie pas, c'est le fait de s'abonner à une chaîne, même des chaînes qu'on a découvertes et qui nous intéressent, comme par exemple Limite, c'est une chaîne belge qui est bien sympathique. Mais dès qu'on est abonné, ça devient un peu envahissant sur l'écran et ça nous agace. On est pas fait pour ça, pas pour ces sollicitations. On aime bien choisir nous-mêmes et pas être sollicité.
Merci beaucoup Marie-Odile. Moi je trouve que la clé dans ce que nous dit Marie-Odile, c'est Bruno Patino, c'est on aime bien choisir nous-mêmes. Et c'est ça la manière de regarder la télé aujourd'hui au fond, c'est on aime choisir nous-mêmes. Et ce que vous faites, vous, sur Arte, on est la preuve. Ce que vous faites sur la plateforme arte.fr, on est aussi la preuve, en fait.
Je pense que la question du choix, elle est centrale aujourd'hui, en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, le fait d'avoir le choix du moment et le choix du contenu est absolument important. Et après, quand vous êtes dans des univers immenses, et YouTube, c'est un univers d'infinité, en réalité, de vidéos, vous êtes forcé de déléguer votre choix à un moment donné. Alors, il y a la délégation algorithmique, dont votre auditrice a très bien parlé, et elle a très bien dit les choses, me semble-t-il, parce qu'il y a ce paradoxe. Ça nous aide, c'est super, l'algorithme nous propose des choses, et puis de temps en temps, il nous envahit. Donc, on est effectivement là, au cœur, je pense, de la relation qu'on peut avoir avec une proposition algorithmique. Donc, effectivement, quand nous, on est sur la plateforme d'Arte, on laisse le choix, on ne pousse pas par l'algo. En même temps, nous savons bien, Arte, que nous sommes proposés par l'algorithme comme quand nous sommes sur YouTube. Donc, c'est pas... Vous voyez, cette relation-là, cette relation du choix, elle est très importante. Maintenant, j'entends ce que dit Jean Massier sur la culture YouTube, mais malgré tout, il y a toutes les cultures sur YouTube. Alors, effectivement, c'est important, peut-être, de lui dire que je pense que la question du rapport au public, et vous l'avez dit, d'ailleurs, a toujours été présente dans la télévision. Toujours. Mais maintenant, la société elle-même change dans son rapport, j'allais dire, dans ses rapports sociaux, et YouTube emporte la marque. Il n'en reste pas moins que c'est un univers où, dans lequel on peut aussi, à un moment donné, donner des repères. Donc, vous avez des chaînes. Donc, quand nous, on fait une vingtaine de chaînes sur YouTube, ce sont des chaînes qui ressemblent à Arte, même si elles adoptent un certain nombre des codes de YouTube. Et on est assez heureux, effectivement, d'être voisins et même de travailler avec d'autres. Mais tout ça se nourrit. Et donc, ce qu'a dit à la fois Adam Brose et ce que dit Jean Massier est tout à fait juste. Ces mondes s'interconnectent et s'interpénètrent. Et rien n'est pire que de penser que vous avez des silos qui sont aujourd'hui totalement imperméables les uns aux autres.
Il n'y a pas de silos et en même temps, Jean Massier, moi je trouve ça intéressant, à chaque fois qu'un youtubeur est venu sur la télé dite classique, ça n'a pas forcément marché parce que ce n'est pas là qu'on l'attend.
Et inversement,
il a raison.
Alors inversement, voilà. J'en sais rien parce qu'ils sont en train de tous s'y mettre.
Forcément, oui. Alors,
puisqu'on parle d'infos, j'ai vu qu'Élise Lucet y était depuis pas longtemps et que la première intervention avait fait plus d'1,5 million de vues, donc quand même, je vous vois faire...
Non, mais c'est vrai, on peut transformer une partie de son capital de sympathie et d'audience de la télévision classique vers Internet, ça a déjà été prouvé à plusieurs reprises, même si c'est pas toujours évident, même si on a vu aussi des accidents industriels, des tentatives de devenir des stars de YouTube, de personnes connues à la télé qui en fait n'ont pas du tout réussi, et ça a même plutôt été une humiliation. Je suis totalement d'accord avec vous, les stars d'Internet à la télé, ça cartonne pas automatiquement.
Et parce que
pas magique.
C'est pas magique. Et alors, je vais poser la question au plus jeune aussi, Adam Brose, dans un instant. Mais Jean Massier, il y a un côté trahison, en fait, non?
Alors, il y a quand un petit peu de ça. Oui, c'est vrai. Il y a une rengaine sur YouTube qui existe et à laquelle j'ai pu participer par le passé, qui consiste à en vouloir à la vieille télé d'être la vieille télé. C'est un peu nul, c'est un peu aller à la soupe que de travailler avec la télévision. La réalité, c'est que, et moi, ça fait 10 ans que j'innove avec les médias traditionnels, dont des chaînes de télévision, en faisant des émissions différentes, en imaginant des lives sur Internet, etc. Donc, je suis un peu revenu de ce discours-là. Mais oui, vous avez raison, dans la culture web, il y a un petit discours anti-télé, ça c'est vrai.
Comment ça se passe par exemple, vous, Adam Brose, demain on vous dit, c'est bien ce que tu fais, c'est intéressant, qu'est-ce que tu dirais d'une émission chez Bruno Patino sur Arte? Vous prenez ou pas? Pardon Bruno, je ne vais pas
ça
vous mettre mal à l'aise.
Ça dépend de la façon dont on propose.
Non mais sérieusement, enfin, je veux dire, est-ce que cette passerelle-là vous la faites ou est-ce que vous aurez effectivement ce sentiment de trahison et surtout en vous disant je ne serai plus le même donc j'y vais pas en fait?
Tout dépend effectivement des conditions, de comment ça fonctionne. Dans les premières années de YouTube, je pense que cette transition elle était d'autant plus difficile que YouTube en tant que média a voulu d'abord, et les youtubeurs ont voulu s'affirmer, et donc pour s'affirmer ils se sont aussi construits un peu en opposition avec cette télévision pour développer donc une stratégie hyper médiatique, à savoir développer des codes propres et des codes donc en opposition avec à la fois la vieille génération mais aussi le nouveau média pour revendiquer quasiment quelque chose. Aujourd'hui on voit qu'on est au contraire dans une phase de convergence, donc ça me paraît beaucoup moins choquant. Je pense à un Inoxtag qui a eu aucun problème à faire diffuser son film sur l'Everest au cinéma, et même ensuite il a été diffusé sur TF1. Il y a quand même pas mal d'émissions avec des youtubeurs ou des influenceurs à leur tête, donc non, moi je pense qu'aujourd'hui c'est plus vécu comme une trahison, sauf si en l'occurrence l'émission en question retire toute la substance, retire tout l'intérêt du créateur de contenu. Si demain on propose de faire une émission où simplement je viens présenter des nouvelles qui n'ont rien à voir avec mes sujets d'habitude, où je ne peux pas analyser grand chose,
si vous devenez toutologue,
ça
n'ira pas. Juste un mot avant de retourner au standard, Jean Massier, mais il a parlé d'Inoxtag par exemple, Adam Brose, le problème c'est que ce qu'on voit surtout maintenant aujourd'hui c'est ça, ce sont d'immenses machines. Enfin, je veux dire, Inoxtag, si on va regarder son... Le docu est génial, hein,
attention,
sur l'Everest.
Oui, il est très bien, Kaizen est très bien. Voilà. Attention entre l'arbre et la forêt. Bruno Patino l'a très bien dit, YouTube est un monde, YouTube est un univers. Il y a une quantité astronomique de chaînes différentes les unes des autres. Il y a un Inoxtag, il y a un Squeezie, il y a un Cyprien, donc ces grands YouTubeurs français qui, effectivement, attirent l'attention, notamment lorsqu'ils sortent des productions phénoménales. Mais ça ne résume pas YouTube. YouTube est, et je suis totalement d'accord, même moi qui depuis 15 ans y passe plusieurs heures par jour, je continue à découvrir des chaînes, des sous-genres, des trucs dont j'ignorais même l'existence il y a encore deux jours. Donc voilà, YouTube est bien plus vaste que seulement Inoxtag.
Philippe est avec nous au standard. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors voilà, juste une remarque. En fait, Je trouve que lorsqu'on regarde sur des plateformes ou sur YouTube, on a tendance à s'enfermer dans un certain type de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde les choses qui nous intéressent, qui nous plaisent certes, mais en même temps, on se ferme aussi à tout ce qu'il y a autour, à tout ce qui pourrait être différent. La différence avec la télévision, c'est que la télévision va proposer une grande diversité de contenus, de formats, etc. Et du coup... Quand on coupe YouTube et qu'on repasse sur de la télé, des fois on passe aussi sur d'autres types de contenus qui nous ouvrent à autre chose, alors que en restant sur les plateformes, bah, finalement on est dans une sorte de routine et d'enfermement. Enfin, enfermement, c'est peut-être un peu fort, mais on se retrouve quand même souvent à regarder les mêmes choses, les mêmes types de contenus, les mêmes types de formats. Et du coup, c'est un petit peu appauvrissant. Voilà.
C'est le mal de notre époque. Merci beaucoup, Philippe. C'est un peu le mal de notre époque, au fond, Bruno Patino, d'aller chercher ce en quoi on croit, d'aller chercher les gens qu'on connaît et ce que nous savons. Mais c'est à ça que sert aussi la vraie télé, entre guillemets, tomber par hasard et rester scotché sur quelque chose.
D'abord,
ça arrive encore.
Je vais vous répondre en disant... Il n'y a pas plus de la télé comme il y a de l'Internet.
Bien sûr, heureusement.
Heureusement. Et donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné.
Il n'y a plus trois chaînes, vous voulez dire.
Voilà. Et puis surtout, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné depuis qu'on parle de YouTube, c'est que quand même, l'algorithme qui est là, il a aussi des visées publicitaires. Et donc, le modèle économique de YouTube, hein, effectivement, étant un modèle... avant tout publicitaire, même si une de vos auditrices a dit qu'elle était abonnée, mais malgré tout, l'immense majorité des gens le regardent de façon gratuite et de façon publicitaire, et bien l'algorithme, évidemment, il vise à un moment donné à avoir le plus de rentrées publicitaires possible. Et donc, il aura tendance à vous proposer quand même des choses dont il pense qu'à un moment donné, elles vont vous intéresser, donc suivant une façon particulière de regarder votre historique. Et donc, c'est vrai que le côté répétitif... Enfermement, c'est un bien grand mot, parce qu'il y a quand même dans l'algorithme des capacités de découverte et de proposition, mais on sait que dans l'autoplay, il y a un côté répétitif qui peut avoir effectivement, de temps en temps, tendance à vous mettre sur des rails. C'est la mécanique, ça marche comme ça. Vous allez me dire, la télé, il y a le rail de programmation. C'est vrai, mais qui peut aussi, à un moment donné, quand le modèle n'est pas publicitaire, vous proposer des choses un peu différentes. Sur les plateformes, nous sur Arte, vous nous avez fait l'amitié de nous citer, on n'a évidemment pas de modèle publicitaire, donc on est dans une proposition plus large. Je pense que la question du choix, encore une fois, c'est une question absolument centrale. YouTube a ce paradoxe de faire que votre auditeur peut se sentir enfermé alors qu'il est face à un univers interminable de contenu, et ça, c'est parce qu'à un moment donné, pour naviguer, il a besoin d'une boussole, et cette boussole, elle est algorithmique.
Et c'est un peu le propre de toutes les plateformes, de toute
Exactement.
Façon.
Exactement. Ce que désigne votre auditeur, c'est cette fameuse algorithmisation d'Internet. C'est-à-dire que ces grandes plateformes, et YouTube n'est pas la seule coupable là-dedans, vont nous abreuver de ce qu'on aime déjà, de ce qui retient notre attention. YouTube est une plateforme cynique, elle fait de la rétention, elle fait de la rétention d'usage, et donc elle essaye de nous mettre un maximum de publicité. Si vous lui faites comprendre que vous aimez bien les bateaux, elle va vous proposer des bateaux, et encore des bateaux, et des bateaux. Le problème, que souligne votre auditeur, qui peut être intéressant aussi, c'est que votre voisin du dessus dans votre immeuble, lui, tout en étant sur la même plateforme que vous, ne va voir absolument aucun bateau, mais ne va voir que des avions, parce que lui, il préfère les avions. Le risque derrière, c'est de ne plus faire société ensemble. C'est effectivement de ne plus partager une même plateforme médiatique. Je ne dis pas que la télévision hertzienne, linéaire, à l'ancienne, réunissait tous les Français tout le temps non plus. Hein. Chacun avait aussi son petit truc, des émissions un peu spé, en fonction de ce qu'on aime. Ça existait aussi. Mais je reconnais qu'il y a un problème avec cette algorithmisation qui peut potentiellement nous enfermer dans ces bulles de filtre et nous rendre hermétiques à des ailleurs, à des possibles. Et c'est quelque chose qui peut être triste.
Je me demande comment vous qui avez 23 ans, Adam Bros, comment vous le vivez, vous qui n'avez jamais connu au fond ou très peu cette télé où on se met tous sur le canapé et on regarde. Comment vous entendez ce genre de remarques?
Je les entends, je les comprends, parce qu'effectivement j'ai connu très jeune un peu la télévision, pareil avec mes parents, quasiment cérémonielle, mais j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu de ça dernièrement sur YouTube. Je pense notamment, encore une fois, à des gros YouTubeurs qui vont sortir des vidéos ou même des lives sur Twitch, évidemment, qui vont faire événement et où, d'un seul coup, tout le monde va regarder en même temps et va participer sur les réseaux sociaux à réagir, à répondre à la vidéo. Et dans ces moments-là, je retrouve quand même une forme de collectivité qu'on retrouvait à l'époque avec la télévision, sachant que même aujourd'hui, la télévision, il y a plein d'émissions qui sont regardés en replay, qui sont regardés en différé, en streaming. Donc effectivement, on a peut-être perdu un peu de ce sentiment collectif, mais je trouve qu'il se retrouve dans certains contenus sur YouTube, et surtout, on parlait des biais algorithmiques de la plateforme, mais effectivement, la télévision avait elle aussi quasiment des biais algorithmiques, entre guillemets, avec une programmation bien spécifique. J'imagine que Arte, ils ont leur propre ligne éditoriale qui forcément va pousser à créer un type de contenu pour une audience, une cible, et donc c'est ce qu'on retrouve, mais poussé quasiment à l'extrême sur YouTube.
Il y a un auditeur, Bruno Patino, juste pour poursuivre sur WhatsApp, qui dit est-ce qu'il ne faudrait pas d'ailleurs modifier la mesure d'audience et avoir de J+7 pour faire rentrer en ligne de compte le fait que les gens, de toute façon, vont se servir après sur la plateforme.
Alors, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'audience cumulée en J+7 et Médiamétrie est en train de faire l'audience tout écran. Et donc, qui comprendra aussi les déclinaisons YouTube. Donc ça est en train de se mesurer. Là où je vais pouvoir apporter une nuance à Adam Bros, c'est que... oui, bien sûr, Arte a une ligne publicitaire, une ligne éditoriale, et justement, elle n'est pas déterminée par la publicité. Et donc, le rail, à aucun moment, n'a à voir avec la rétention publicitaire. Mais ce qu'il disait, en revanche, est très très juste sur l'imbrication. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand la télé, comme vous l'avez appelée de papa, mais qui existe encore, elle avait ceci de particulier qu'elle rassemblait les gens, j'allais dire, autour d'un même contenu au même moment. Donc ce qu'a dit tout à l'heure Jean Massier, c'est que sur le même contenu, de moins en moins sur YouTube, mais au même moment, les plateformes y arrivent, évidemment. Ouais. C'est-à-dire qu'ils recréent ce sentiment de synchronicité avec le live.
Et puis d'ailleurs...
Et les télés font l'inverse avec les plateformes.
Et je parlais de la télé de papa, je nous ai traité, nous, de dinosaures, mais le fait est qu'on en a toujours une, et puis qu'après, quand on regarde les chiffres d'audience, l'ancienne, si je puis dire, on en parle là au passé, mais ça existe toujours, c'est encore bien bien présent, personne
et
n'a encore...
largement voilà. devant, il
Exactement,
faut dire.
Personne n'a encore dépassé ni les scores des 20h, ni les scores des prime time, etc. On est très très loin de ça aujourd'hui.
Oui, mais si vous regardez, il y a un indicateur qui est fait par Nielsen aux États-Unis qui a regardé sur le téléviseur la présence des groupes audiovisuels. Et aujourd'hui, malgré tout, il faut convenir, le premier groupe audiovisuel, toutes marques confondues aux États-Unis sur le téléviseur, je dis bien le téléviseur, c'est Disney, juste derrière, c'est YouTube. Donc malgré tout, c'est vrai, c'est très loin à un moment ou un autre, mais quand même, y compris sur le téléviseur, YouTube a pris une place très importante, et je pense, encore une fois, que c'est parce que c'est maintenant l'interface de réflexe de toute une catégorie de population.
Mais c'est quelque chose qui peut être important en matière d'information et de démocratie. Par exemple, pour parler de l'actualité politique, la télévision reste le média phare en France, et de très 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 loin. C'est à la télévision qu'on fait ou pas une candidature présidentielle, c'est à la télévision qu'on fait ou pas une bonne campagne, c'est à la télévision...
Peut-être un réseau social aussi pour les candidatures et choses comme ça, il commence à y avoir...
Ça fait deux présidentielles qu'on me parle des campagnes numériques des candidats, etc. Je commente ça volontiers à chaque fois, et je rappelle toujours que jamais on a vu quelqu'un remporter une élection présidentielle parce qu'il avait fait une excellente campagne numérique. Il y a des exceptions à l'étranger, Volodymyr Zelensky en Ukraine, Donald Trump à sa manière en 2016, aux États-Unis. En France, pour l'instant, je suis désolé, ça reste la télé qui est le média numéro un.
Pour revenir là-dessus, je sais que vous voulez intervenir, Adam Bros, juste une seconde là-dessus. On dit beaucoup aujourd'hui que lorsqu'on va faire une interview sur YouTube, quand on est un homme politique, par exemple, c'est qu'on veut sortir des médias traditionnels, mais je me demande à quel moment, en fait, on sera de toute façon rentré dans la catégorie des médias traditionnels quand on viendra faire une interview, par exemple, chez vous, avant une présidentielle chez Baxit, Jean Massier.
Mais oui, absolument. Et les politiques ont parfaitement conscience du divorce démocratique dans ce pays. Ils savent très bien que les gens leur en veulent, que les gens n'ont pas confiance, etc. Les politiques sont à la recherche d'essayer de parler aux gens avec parfois beaucoup de sincérité pour leur promettre des choses ou leur parler de leurs idées. C'est normal que les politiques viennent sur Internet pour essayer de s'adresser à un autre public parce qu'ils voient aussi l'âge des audiences. Et ils savent qu'à la télévision, on ne touche pas beaucoup les jeunes. Sur Internet, c'est plus probable.
Hélène, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Hélène.
Alors, moi, j'ai changé ma relation à la télévision, moi qui suis normalement très addict, et la télévision était quand même souvent allumée chez moi. Grâce aux nouvelles box, on peut sélectionner la liste des chaînes que l'on souhaite regarder. Et en fait, j'ai pris la décision de supprimer toutes les chaînes. De cette façon, quand j'allume, j'ai un écran noir. Et j'ai donc pris la décision de regarder qu'en replay. Donc du coup, c'est moi qui décide quand...
Parce que sinon, j'allais vous demander, mais faut jeter votre télé du coup, parce que l'écran noir, je vois pas bien.
mais parce que du coup, je ne suis plus tentée de que ce soit la télé, en fait, qui me dicte quand je dois regarder et ce que je dois regarder. Maintenant, c'est moi qui dis quand, comment, où, et donc voilà, c'est plus la télé qui commande ma vie, c'est moi qui la commande. Et en fait, cela fait plusieurs semaines que j'ai mis ça en place et je m'aperçois que je n'allume plus la télé du tout.
Mmh. Bah écoutez, si c'était votre objectif, on est ravis pour vous. Hélène, il y a Bruno Patino qui dit, enfin quand même, vous pourriez l'allumer sur Arte.
Non, mais si elle est allumée sur arte.tv, la plateforme, ça me va parfaitement.
Ça vous va aussi, je comprends bien. Après, moi, il y a une chose qui me fascine, justement, parce qu'on a bien parlé de ces univers qui étaient, qui pouvaient se rencontrer les uns les autres et se mélanger. Adam Bros, moi, par exemple, je voudrais que vous m'expliquiez à quoi ça sert de faire, par exemple, Danse avec les stars sur Internet. À quoi ça sert de faire sur YouTube des choses qui sont des copier-coller de cette télé-là, en fait.
Moi, je pense qu'on en revient à l'attachement à la personnalité des créateurs et à quelques petits changements dans le mode d'énonciation, notamment. Ça va être souvent un peu moins sérieux, va y avoir souvent des références à de la culture Internet et qui va donner l'impression à un public, notamment un public plus jeune, qu'on s'adresse directement à lui, là où parfois peut y avoir effectivement une forme de distance dans les émissions plus traditionnelles, dans les médias traditionnels, qui cherchent à s'adresser à un public tellement large qu'en fait, l'audience, notamment jeune, a plus de mal à s'y retrouver. Mmh. Et aussi, pourquoi il y a de plus en plus de concepts sur YouTube qui reprennent les formats de la télévision, c'est parce que c'est un mode de format et un mode de diffusion qui est encouragé par la plateforme. YouTube encourage de plus en plus des formats longs, des formats qui du coup retiennent l'audience sur la durée et des formats qui sont regardés sur le téléviseur parce qu'aujourd'hui, le téléviseur est devenu le premier moyen de visionnage sur YouTube aux États-Unis et est en passe de le devenir en France. Donc YouTube pousse au maximum cette consommation du côté des utilisateurs mais aussi du côté des créateurs qui alors s'adaptent et le meilleur moyen aujourd'hui de créer un contenu qui dure 50 minutes, accroche une audience, etc., c'est de reprendre les codes qui ont toujours fonctionné, à savoir ceux de la télé.
Donc c'est un peu de feignantise, en fait, Bruno Patino, non ?
Oui, puis je pense qu'il y a une chose aussi, parce que j'entends bien Jean Massier quand il dit les YouTube, c'est des créateurs, et c'est vrai, mais sur YouTube cartonnent aussi des vieilles émissions de télévision qui n'étaient même plus rediffusées par les télévisions. Je ne vais pas donner des vieux formats d'émissions de variété, d'émissions de faits divers, qui n'étaient même plus rediffusées parce qu'elles ont 20 ans, 25 30 ans d'âge et qui, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, cartonnent sur YouTube. C'est donc vrai. Les vieux, comment dire, formats télévisuels considérés par la télévision elle-même comme désuets ont une nouvelle vie sur YouTube et fonctionnent très 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 bien. Donc oui, il y a des créateurs, mais pas uniquement, et vous le savez.
Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, mais parlons aussi des défauts de YouTube. C'est-à-dire que YouTube est aussi envahi depuis quelques années maintenant par l'intelligence artificielle. Alors ça a été très à la mode ces 10 derniers jours en France, tant mieux. Mmh. Parlons aussi de ce que je considère être un drame pour la plateforme. Cette profusion de contenu généré automatiquement par des intelligences artificielles pour faire un maximum de vues sur des chaînes qui se présente à profusion, c'est un vrai problème pour nous les créateurs de contenu. On se pose tous la question de savoir quel va être notre avenir. Si vraiment pour faire de l'argent il faut avoir une ferme à chaîne d'intelligence artificielle plutôt que de faire sa propre chaîne YouTube, c'est un vrai problème aussi pour la création. Donc nous aussi on est tensés par ces difficultés, on est aussi tensés par les difficultés de ce qui se passe aux États-Unis avec les leaders de la tech qui sont en train de tous rejoindre Donald Trump avec cette vision très américaine du monde. Qu'est-ce que nous en Europe on a à offrir en échange. Comment est-ce qu'on pense un Internet différent ? Et heureusement, du coup, qu'on a des projets comme Arte.tv, heureusement qu'on a des projets européens qui essayent d'imaginer une autre manière de faire. Le fait est qu'on est encore aujourd'hui dépendant beaucoup trop d'outils américains.
Mais justement, est-ce que vous avez le droit ? Est-ce que vous pouvez ? Comment on sort des contraintes, en fait, quand on est. Enfin, des contraintes qui seraient celles des carcans de la télévision parce qu'on s'adresse à une audience qui est plus large. Donc, vous, on se dit que vous avez une latitude qui est une plus large latitude. Est-ce que vous craignez, par exemple, effectivement, que demain, YouTube vous dise la diversité, l'égalité, etc., l'équité,
totalement, vous avez raison.
Donc, des émissions de ce type-là, il n'y en aura plus. Ça vous en est ou pas ?
On dépend de décisions qui sont prises aux États-Unis d'Amérique par des hommes en costume-cravate qui n'ont pas du tout notre intérêt à nous dans leur ligne de mire. Ils ont le leur. Donc, effectivement, ça peut changer du jour au lendemain. Il peut y avoir des décisions qui viennent impacter très directement la création, qui peuvent impacter des démocraties entières, parce qu'on peut empêcher d'avoir un débat démocratique, d'avoir une discussion, d'avoir... Si on fait la chasse au wokisme et qu'on empêche l'antiracisme de s'exprimer sur ces plateformes, on peut imaginer des dystopies absolument terribles vu la place qu'ont pris ces plateformes dans nos démocraties. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je suis le premier à aimer YouTube profondément pour sa culture et sa création. l'information, je suis aussi le premier à être un peu lucide sur les dangers que font peser ce type de plateforme sur nos démocraties.
Qui vous héberge si vous devez disparaître, si vous ne vous sentez plus, est-ce que vous avez un plan B? Est-ce qu'il y a un plan B pour les gens comme vous qui sont des créateurs de contenu, qui là ont une place à part et tout l'univers qu'il leur faut sur YouTube?
Dailymotion, qui, alors je ne sais pas si c'est encore français, je crois que c'est toujours français, qui existait avant YouTube en plus, enfin en tout cas qui a cartonné en France avant YouTube, c'est une gloire nationale, donc cette plateforme existe. Mais du reste, non, vous avez raison, il n'y a pas de pendant à YouTube, ça n'existe pas. Alors il y a des pendants russes et chinois pour leur web propre, mais non, il n'y a pas de pendant à YouTube, et la plateforme Twitch sur laquelle moi je diffuse des émissions en direct appartient à Amazon, même problème, il n'y a pas d'alternative.
Merci beaucoup, leur tourne vite, merci à tous les trois. Bruno Patino, il y a plein de messages sur WhatsApp qui parlent d'Arte.fr, je vous les donnerai, vous allez voir, ça va vous mettre de très très bonne humeur.